fait pas du...
Ça y est.
Ça y est. Et puis... 1, 2, 3... 1... Oui, je crois que ça va aller.
Oui. Il y a longtemps que vous êtes arrivé en...
Oui, je suis né ici.
Vous êtes né en...
Oui.
Et... Vos parents étaient organais aussi?
Non, mes parents, mon père était parisien, ma mère était de la Sologne.
Sologne.
Mmh. Elle avait 20 km d'ici, 25 km d'ici. Mmh.
Et vous vous plaisez à Orléans?
Personnellement, non.
Personnellement,
non. C'est mon lieu de travail, évidemment, je suis obligé de m'y résigner, mais enfin, si on n'est qu'à moi, je partirai en Sologne. Vers loin du bruit, loin de tout.
Mais et la Sologne, c'est la région, enfin, il y a beaucoup de forêts, c'est...
Oui, c'est la région au sud d'Orléans, ce que vous avez entre ce qu'on appelle la Sologne, c'est-à-dire la région entre, disons, Orléans et au maximum Vierzon, vous voyez.
Oui, d'accord. Et c'est, enfin, on m'a dit qu'il y avait des sangliers et tout, là-bas. Enfin,
oui, c'est exact.
Parce que une fois, je suis allé au marché, à Orléans, là-bas, ouais, je crois que c'est...
Ouais, oui.
Puis, comme ça, pour voir ce qu'ils avaient, j'ai vu dans une boucherie, beefsteak de sanglier.
Oui, c'est
ils avaient coupé des beefsteaks et la peau du sanglier était restée. Ils n'avaient pas enlevé la peau
ah,
du
oui,
sanglier.
Pour faire voir que c'était réellement de sanglier.
Oui.
Vous trouvez d'ailleurs... dans des restaurants aux alentours de la Ferté-Saint-Aubin, par exemple, vous trouvez des sangliers que lors le dimanche soir, par exemple, quand il y a eu une battue, quand il y a eu quelque chose, vous trouvez le sanglier qui est attaché à la porte, devant la porte de l'hôtel ou du restaurant. Mmh. Sanglier ou chevreuil ou...
Oui.
Mmh.
Oui.
Les plus belles chasses ne sont pas relativement à cela, ils sont du côté de... Chambord, etc., quand on descend sur la vallée de la Loire.
Oui, d'accord.
D'ailleurs, c'est là que le président de la République va chasser dans la forêt dominiale de Chambord.
Mm-hmm.
Et là, vous avez vraiment une forêt qui est giboyeuse.
Mm-hmm. Oui. Enfin, j'ai vu aussi, enfin, on vient quelque part, je me souviens plus dans quel quartier, mais ils avaient un chevreuil, c'est une boucherie, ils avaient un chevreuil
ça. Oui, du côté des Halles, vous en trouvez. Surtout à l'occasion des fêtes de Noël ou les jours de l'an, vous trouvez du gibier, que ce soit du chevreuil, que ce soit des faisans, que ce soit des...
Vous
en trouvez assez fréquemment.
Oui, c'est quand même... Enfin, à Londres, je ne sais pas, j'ai jamais vu un chevreuil comme ça. Enfin, un chevreuil entier à la porte d'une boucherie, c'est en fait des faisans.
Oui,
ça
arrive très... Enfin, ouais, c'est courant par ici.
Mmh. C'est très bien. Mais est-ce que vous comptez rester en Orléans plus tard ou, enfin,
tout dépendra. J'espère faire construire en dehors d'Orléans, puisque maintenant à Orléans, pour ainsi dire, il n'y a plus de terrain à construire, il n'y a plus rien, absolument. Il faut tomber dans la banlieue d'Orléans, c'est-à-dire des communes limitrophes comme Saint-Jean-de-Laruelle, Saint-Jean-de-Bray, Ingré même, Ingré qui est quand même assez loin d'Orléans, disons. Saint-Jean-le-Blanc, vous voyez. Parce qu'à Orléans même, il n'y a plus de terrain à construire, ou alors s'il y en a, c'est à des prix exorbitants.
Oui, c'est ça. C'est vraiment... enfin, c'est jusqu'à... Moi, je me suis promené pas mal de fois à Orléans, et jusqu'à la... aux limites, presque toutes les limites, c'est pris par les... près des maisons, enfin, à part quelques régions, enfin quelques quartiers, enfin en général c'est tout à fait...
Alors là, quand il y a un terrain libre par exemple, vous avez un promoteur qui se met dessus et puis oui, alors vous pouvez mettre par exemple 3 ou 4 millions d'anciens francs,
ouais.
Le promoteur il en met 5,
oui.
Évidemment, il n'y a pas de problème.
Oui.
Alors évidemment maintenant vous avez Orléans 2, ce qu'on appelle Orléans 2 c'était Orléans la source,
oui.
Qui est en voie d'achèvement, disons. Il est en plein essor. c'est pareil, les terrains sont à un prix.
Même
pas prohibitif, mais enfin presque.
Oui, même en regardant la source, enfin bien
ah
que
oui,
ce soit.
Ah oui, vous avez la moindre petite maison, terrain et maison, pourvient facilement et sans faire un château, hein, sans faire une maison correcte, quoi, oui. Normale. Hein, terrain et maison, ça revient facilement à entre 15 et 16 millions d'anciens francs. Ce qui fait gros, évidemment, pour des ouvriers, pour des.
Enfin, vous, mettons que vous allez faire construire, vous ferez construire à ce moment-là à Saint-Jean-de-Blanc ou...
Sur une commune limitrophe, très certainement, Saint-Jean-de-Lael ou...
Oui. Mmh.
Parce qu'évidemment, après, on peut trouver des terrains qui ne sont relativement pas chers, mais alors ça nous emmène à une quinzaine ou 20 km d'Orléans.
Mmh. Oui, c'est ça.
C'est des terrains du côté de Chessy, par exemple, qui sont encore en ce moment en verger ou même en champ.
Oui.
En champ inculte d'ailleurs, mais en champ, et qui sont vendus petit à petit en terrain à construire.
Oui, c'est ça.
Et ça vous emmène à 15 km d'Orléans.
Oui, c'est ça.
Et les Orléanais ne sont pas encore faits à vivre en grande banlieue, si on peut dire.
Oui.
Ça arrivera un jour.
Oui, certainement.
Ça arrivera un jour. Il est certain que dans une quinzaine d'années d'ici, 20 km autour d'Orléans, ce sera.
Oui.
On appelle d'ailleurs déjà Orléans la grande banlieue de Paris, il y a 120 km, vous voyez.
Oui, c'est pareil chez nous. Enfin.
Pour l'instant, on n'est pas encore habitué à cela.
Non. Je ne crois pas non plus en Angleterre, enfin, dans les villes enfin, situées dans la province, mais enfin, à Londres, même 15-20 km, enfin, il faut faire 15-20 km pour arriver quelque part. Ça.
Oui, mais peut-être qu'en Angleterre, vous avez quand même des moyens de, pas des moyens de locomotion, mais enfin, des routes, disons, qui sont quand même plus à la portée que par ici. Parce que par ici, nous continuons à construire des maisons, par exemple, mm-hmm. On n'a pas pensé à élargir les routes, vous voyez.
Je vois
dans beaucoup de cas à Orléans, vous voyez, dans la banlieue, vous avez par exemple des lotissements qui se construisent, et puis les routes, eh ben, elles sont restées telles qu'elles étaient en 1930, c'est-à-dire elles ont 4 mètres de large, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Alors c'est ça qu'on perd. On perd beaucoup de temps parce que en voiture, eh ben, vous...
oui.
À vol d'oiseau, ce n'est pas loin, mais en voiture,
mais faut
vous mettez beaucoup plus de temps.
Oui, c'est ça.
Moi, je vois, j'ai mes beaux-parents qui habitent à Saran, donc Saran, c'est en dehors d'Orléans, sur la Nationale 20, sur la route de Paris. Hein. Mm-hmm. Disons que c'est à 8 km à peu près. Du centre d'Orléans, c'est-à-dire de la place du Mar 3, je mets moins de temps pour aller chez mon beau-père que de venir ici, qui est à 2 km du Mar 3. Mm. Parce que pour aller à 8 km, je prends la déviation et ça va tout droit. Pour venir ici, de la place du Mar 3 à ici, d'abord j'ai un temps de sens interdit, sens unique, et puis ensuite... Les routes en centre-ville ne correspondent plus à la densité de circulation
qui existe maintenant. Oui. Oui, c'est ça. Enfin, et surtout aux heures de pointe, enfin, ouais, même pour traverser la rue.
Enfin, c'est-à-dire que maintenant, on est arrivé au problème, c'est qu'on construit des passerelles pour les piétons.
Oui.
Vous allez en avoir une, enfin, vous ne le verrez peut-être pas. Sur l'avenue Candolpe, qui est la déviation RN20. Déviation nationale 20 du côté Vierzon, alors en allant sur Vierzon, bien les piétons ne peuvent plus traverser. On va faire une passerelle pour les piétons parce que les aides.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites comme travail exactement?
Moi, je travaille à la mairie.
À la mairie?
À la mairie, oui, dans les bureaux de la mairie. Mm-hmm.
Et qu'est-ce que vous faites? En quoi est-ce que ça consiste votre travail?
Je fais de la comptabilité, c'est-à-dire que je règle des factures, je fais des engagements de dépenses.
C'est dans quelle branche de la mairie?
Voirie.
La voirie.
Ouais, voirie. Je fais la comptabilité voirie.
C'est où dans la mairie? Enfin, je suis allé à la mairie une ou deux fois.
Non, c'est à l'annexe. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la mairie même, vous voyez. Mm-hmm. Nous avons, la mairie même est une sorte de musée, vous voyez, dans lequel il y a encore des bureaux. Dans lequel il y a encore des bureaux administratifs, vous voyez. Mm-hmm. Mais tout ce qui est direction des services techniques, c'est-à-dire vous avez la voirie, vous avez l'assainissement, les bâtiments, l'entretien des bâtiments scolaires, l'entretien des bâtiments communaux, etc., vous voyez. Mmh. Alors tout ça, ça a été regroupé dans un bâtiment neuf, qui est face à l'état-major.
Face à?
À l'état-major.
Ouais, je ne comprends pas ça. C'est...
L'état-major, c'est un... C'est, si vous voulez... Ouais. Je cherche le synonyme en anglais. Headquarter.
Ouais, headquarter, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous pourriez me décrire une journée de travail? Est-ce que... Comment ça se passe?
Une journée de travail, disons, bon, le... Partant du matin, le matin, nous nous levons vers... enfin, nous, je dis nous, puisqu'il y a ma femme, elle travaille aux mêmes heures que moi. Alors, nous faisons, elle travaille en même temps que moi, mm-hmm. et elle travaille à la perception, elle. Mm-hmm. C'est-à-dire là où l'endroit où on perçoit les impôts.
Oui, oui, d'accord.
À peu près vers 7 heures du matin, je vais la conduire à son bureau parce qu'elle commence un petit peu avant moi. Mm-hmm. Et après, je vais conduire les enfants chez une dame qui les garde et qui les emmène à l'école après.
Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm.
Et moi, je commence vers 8h15. Alors, 8h15, suivant le travail, j'enregistre les congés du personnel, les maladies, les... ça, c'est mon premier travail. Mm-hmm. Je fais des titres de permission, par exemple, parce que nous avons des titres de permission pour les gens qui s'en vont en congé. Mm-hmm. Après, il y a le courrier à dépouiller. Alors, le courrier est réparti dans les différentes subdivisions, puisque nous avons trois subdivisions. Mmh. Une subdivision travaux neufs, une subdivision entretien, mmh. entretien, une subdivision éclairage public. Nous répartissons le courrier, nous sommes deux ou trois à faire ça.
Mmh.
Nous répartissons le courrier dans les différentes subdivisions. Mmh. Puis après, suivant ce qu'il y a, je règle les factures, je les vérifie.
Oui. Et ça jusqu'à midi.
Jusqu'à midi, oui. Alors à midi, je reprends ma femme. Mm-hmm. Nous mangeons ici, nous repartons à 2h.
Mm-hmm. Et vous travaillez?
Et on travaille jusqu'à... Ma femme travaille jusqu'à 6h et moi jusqu'à 6h30.
Jusqu'à 6h30. Mm-hmm.
Qui lui permet dans le meilleur temps d'intervalle de faire les courses, etc.
Oui, c'est ça. Oui. D'accord.
Et après nous reprenons les enfants à 7h moins le quart chez la dame.
Et enfin, en général, les bureaux commencent à 8h ou 8h15, 8h30
C'est très variable, vous voyez. Suivant les différentes administrations, ça varie. Hein. En principe, c'est entre 8h et 8h30, tous les bureaux, au point de vue administratif, vous voyez. Oui, en...
Mais il y a des gens qui commencent plus tard, ou... Parce que, enfin, en Angleterre... Quand c'est le travail à 8h ou à 8h30, c'est
ah oui.
vraiment très dur. En général, on commence à 9h ou à 9h30.
Ah non, nous ça va. C'est entre 8h et 8h30, à peu près. Toutes les administrations, c'est à peu près ça, oui.
Oui. Même à Paris, c'est pareil, enfin, vous...
Alors ça, je pense que oui, mais je ne... C'est-à-dire qu'à Paris, ils ont un système qui est beaucoup plus valable que chez nous. À Paris, ils ont la journée continue, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de manger. Enfin, ils n'ont pas d'intervalle entre midi et 2h, vous voyez. Ils ont une demi-heure pour manger, ils mangent dans une cantine, et ça leur permet de finir leur travail à 5h ou 5h30, vous voyez.
Oui, d'accord. Oui, c'est
ce qui est appréciable pour les gens de banlieue, par exemple, qui ont une heure de trajet à faire. Voilà.
C'est ce qu'ils font.
C'est-à-dire qu'à Orléans, nous n'avons pas encore la journée continue, vous voyez.
Oui. Et c'est la journée continue établie, enfin, courant en France ou pas tellement? J'ai l'impression que c'est peut-être...
Ça devient assez courant.
Ça devient,
maintenant.
Oui, quand même.
Oui, oui.
Parce qu'en Angleterre, en général, même les magasins maintenant, ou les... Enfin, je crois dans tous les bureaux, ils ont peut-être... Enfin, ils commencent maintenant à 9h le matin. Bon, à midi, ils ont 3/4 d'heure, 1 heure pour manger, et ensuite ils reprennent, enfin même peut-être 1h15, enfin en général 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. Oui. Et après, ils reprennent, mettons, jusqu'à 5h30, 6h.
Vous travaillez 6 jours de la semaine sur 7, non?
Ça dépend, enfin je...
Parce que nous, les administrations, ne travaillent pas le samedi.
Le samedi, oui.
Le samedi, il n'y a pas de...
Oui, oui.
Sauf des services de sécurité ou des permanences, évidemment,
oui, bien sûr.
Tout à fait spéciales.
Oui. Non, je crois quand même qu'ils ont... Enfin, ça dépend du bureau, mais enfin, en général, je crois qu'ils ont...
Ils ont leur samedi.
Ils ont leur samedi quand même. Mais... Oui. Enfin, j'ai une cousine qui travaille dans les impôts en Angleterre, et je crois qu'elle Je travaille, oui, 5 jours, enfin, du lundi au
vendredi. Autrement dit, vous travaillez moins que nous en Angleterre.
Oui, ça. Vous faire là. Et qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans votre travail? Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent ou des choses qui...
Non, j'ai choisi... disons parce que j'ai commencé à la voirie, je recevais le public, vous voyez. Mm-hmm. C'est-à-dire que je recevais les gens qui avaient des plaintes à faire sur l'état de la voirie, l'état des rues, l'état des trottoirs. Et évidemment, c'est très, très attrayant, mais enfin, quand on a fait ça pendant 2 ans ou 3 ans, ça commence à devenir un peu rengaine, disons. Mm-hmm. Et alors j'ai choisi la comptabilité parce que c'est une branche que je ne connaissais pas du tout. Mm-hmm. Et j'ai voulu me lancer là-dedans,
oui,
un peu, pour changer, quoi.
Oui.
Et j'en suis content maintenant.
Uh-huh, oui. Mais enfin, toujours souvent le public, lui,
ça a ses côtés agréables, mais ça a surtout ses côtés désagréables, parce que, en général, les gens ne sont jamais de bonne humeur quand ils viennent nous voir. Que c'est soit qu'on leur a mis des droits de voirie, ou soit qu'on leur a fait payer des impôts de voirie, ou des taxes de voirie, alors vous voyez, ils ne sont jamais vraiment de bonne humeur.
Oui, c'est ça. Oui. Et si vous n'étiez pas dans la comptabilité, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous... Est-ce que quelque chose que, ben, mettons dans votre jeunesse ou enfin, qui vous...
Si, il y a un truc que j'aurais voulu faire, c'est coureur automobile, mais enfin, ça...
Oui.
Tout à fait différent. Oui. Et puis... J'avais pas les moyens d'abord, et puis j'avais pas... C'est ce concours de circonstances qui a fait que je suis rentré à la mairie, quoi.
Oui, d'accord. Et de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes personnellement pour ou contre?
Et c'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais ici, les salaires sont tellement à point bas que le couple, pour réussir au point de vue financier, il n'y a pas... Dans 99 cas sur 100, la femme mariée est obligée de travailler. Mmh. Qu'elle ait des enfants, qu'elle n'en ait pas d'ailleurs.
Oui, d'accord. Oui. Enfin, en Angleterre, je crois que maintenant, on accepte beaucoup plus facilement que la femme travaille.
C'est-à-dire que nous, vous voyez, au point de vue, nous sommes fonctionnaires, alors je ne peux pas juger des salaires dans le privé, vous voyez, mais il est certain qu'un ouvrier, par exemple, qui gagne environ 700 francs par mois, hein. Mmh. Et s'il a 1 ou 2 enfants, il est obligé que sa femme travaille s'il veut y arriver.
Oui, ça. Oui, ipso facto, c'est... Oui, c'est
obligé.
Oui.
Évidemment, il y a bien la garde des enfants qui coûte, mais enfin, l'un dans l'autre, quand même, le couple est gagnant.
Mmh. Oui.
Et on est obligé de travailler les deux.
Oui, Et votre femme travaille?
Oui.
Et vos enfants vont à l'école maternelle?
À l'école maternelle.
À l'école maternelle.
Oui.
Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent quand ils seront grands? Est-ce que vous avez des idées sur...
Pas du tout pour l'instant, non. C'est encore trop petit.
Et avec qui est-ce que vous parlez au cours de votre travail? Est-ce que...
Avec des camarades de bureau. Nous sommes 3 dans le bureau, là vous voyez, il y a 2 femmes et moi. Mm-hmm. Nous arrivons à parler de choses et d'autres. Des nouvelles de cuisine aussi, ça arrive.
Oui.
De mode, même de travail, ça arrive,
oui,
aussi.
Bien sûr.
Accessoirement.
Et vous êtes satisfait de vos conditions de travail, enfin, comme bureau, etc.?
Oui, maintenant, oui. Maintenant qu'on a des bureaux neufs, il n'y a pas de problème. Je suis satisfait de mes conditions de travail. Avant, nous étions dans des vieux bureaux qui étaient humides, noirs et... Ça laissait, et manquer de place, ça laissait vraiment à désirer. Mmh. Maintenant, nous avons des bureaux tout neufs, qui sont clairs, qui sont avenants, vous voyez.
Mmh,
je dirais pas que c'est un plaisir d'aller travailler, mais enfin, presque.
Oui, oui. Presque. Enfin, surtout par rapport à un bureau gris, etc. Oui. Oui.
Merci.
Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer, même maintenant vous êtes installé dans les bureaux
Non, je suis pas content de mon sort, mais enfin je me contente de ce qu'on a, enfin, de ce que j'ai en ce moment.
Et est-ce que vous avez déjà fait grève? Est-ce que les fonctionnaires ont le droit de faire grève ou...
Oui, nous autres fonctionnaires municipaux, nous avons le droit de faire grève. Sauf évidemment, en tant que voirie par exemple, nous avons des services de sécurité à respecter. Ce qui est logique. Si vous avez par exemple, comme Orléans est un vaste gruyère, disons, et pour expliquer ce mot gruyère, il faut dire qu'Orléans, il y a 400 ou 500 ans, c'était de vastes carrières de pierre.
Oui, d'accord.
Et alors, tout le sous-sol d'Orléans est creux, creusé de carrières, si vous aimez mieux. Mmh. Et alors, évidemment, il arrive que certaines fois, par exemple, après le gel ou après les pluies, etc., certaines carrières qui sont peu profondes, vous en avez à 400 mètres au-dessous du sol, arrivent à s'écrouler. Et évidemment, s'il y a une grève, il faut parer au plus vite, vous voyez, barrer des routes, remblayer, etc. Et même des fois, il y a des immeubles qui menacent la ruine avec ces cavernes. Nous pouvons faire grève, mais en ayant un minimum de sécurité.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà fait grève?
Moi, ça m'est arrivé, oui. Lors des événements de mai.
Lors des événements de mai.
J'ai fait une grève très limitée d'ailleurs, puisque l'ensemble de la mairie avait fait, je crois, enfin, l'ensemble du personnel ouvrier avait fait une grève de 8 ou 10 jours, je crois, et nous, dans les bureaux, nous avons fait une grève de 2 jours par solidarité, vous voyez.
Ouais, d'accord. Et comment est-ce que ça a commencé? Enfin, c'était par solidarité avec les
autres. Vous voyez, chez nous, il y a deux clans bien définis. Vous avez le personnel de bureau et le personnel ouvrier. Le personnel ouvrier, lui, quand il y a un ordre de grève, par exemple, automatiquement, il fait grève. Mmh. Mais le personnel administratif, en général, ne suit pas tellement.
Ouais, d'accord. C'est un peu...
Ce qu'on nous reproche, d'ailleurs, entre parenthèses, que les ouvriers nous reprochent, parce que évidemment, ils nous disent, vous êtes dans la même maison, si on fait grève pour vous.
Ouais.
Et le personnel administratif, le personnel de bureau, ne tient pas à faire grève, ne tient pas... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, on fait rarement grève. Là, on avait fait grève au mois de mai parce que, évidemment, c'était quand même une ampleur nationale, disons. Et il y avait des revendications qui étaient bonnes. C'est pour ça qu'on avait fait grève. Mais je vous dis, au maximum, nous avons fait grève 2 jours.
Oui,
et
d'accord.
Encore pas tout le personnel administratif.
Oui. Et est-ce que vous avez obtenu satisfaction? Est-ce que ça a donné des résultats? Enfin, après mai, ou...
Certains résultats, pas tous ceux qu'on avait demandé évidemment, mais enfin on a quand même obtenu certains classements, c'est-à-dire certaines affaires strictement municipales, vous voyez, certains classements, certains avancements, vous voyez, qu'on demandait et qu'on a eu quand même.
Et vous êtes membre d'une association professionnelle ou d'un syndicat?
Non.
Et on peut, enfin, il y a un syndicat de...
À la mairie, vous avez plusieurs syndicats, oui, oui. Plusieurs syndicats.
Et enfin, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas syndiqué? Enfin, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles...
Si, c'est-à-dire que je fais partie en tant que membre adhérent d'un syndicat, vous voyez, mais je ne suis pas, disons... actif, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Je fais partie d'un syndicat parce que, évidemment, quand il y a des revendications à faire, par exemple, ben, tout seul, on ne peut pas les faire.
Mm-hmm.
Donc, automatiquement, avec un syndicat, on se sent beaucoup plus épaulé, beaucoup plus soutenu, vous voyez.
Oui, d'accord.
Mais enfin, je ne suis pas un type à aller coller des affiches, par exemple, dans la rue, ou aller distribuer des tracts aux sorties d'usines.
Vous montez un piquet de grève.
Comme il y en a certains, ou vous montez un piquet de grève.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Qu'est-ce que de vos soirées?
Vous savez, avec les deux enfants, c'est assez occupé.
Oui.
Sans ça, quand elles sont couchées, moi, je regarde la télévision.
Mmh.
Et le dimanche, soit on va dans la famille, soit la forêt n'étant pas loin, ben on sort en forêt.
Oui, d'accord.
Et s'il y a du beau temps, évidemment.
Oui, bien sûr.
S'il pleut, ben on regarde la télévision. Tout le monde regarde la télévision.
Et comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier?
Dimanche dernier, nous avons regardé la... Nous sommes allés chez des amis et ma femme. Et nous avons regardé la télévision et discuté de construction de maison.
Et qu'est-ce que vous ferez pendant les vacances d'été? Vous avez des idées?
Pendant les vacances d'été, nous allons dans de la famille à ma femme, dans la Bretagne.
Dans la Bretagne?
Du côté de Rennes.
Oui.
Entre Rennes et Vannes, exactement. À Josselin, c'est un petit pays avec un magnifique château d'ailleurs.
Mmh. C'est beau la Bretagne, enfin, je suis jamais allé.
La Bretagne, tout dépend de quelle région vous allez, vous voyez. Cette année, nous avons excursionné un peu et nous sommes partis dans la Bretagne du Nord, dans les côtes du Nord, du côté de Perros-Guirec, Saint-Malo d'ailleurs et tout ça. Et la Bretagne du Nord est très froide, très humide. Puis il y a un temps d'ailleurs qui nous rappelait le temps de l'Angleterre. Et alors évidemment, même quand il fait relativement beau, vous voyez, vous êtes obligé quand même de mettre des pulls verts. Et vous pouvez voir les chandails. Vous voyez que là où nous allons, c'est à, du côté du c'est le golfe du Morbihan. C'est une température assez douce. Et même quand il pleut, vous voyez par exemple, même quand il brûle, on peut sortir sans pull verts, sans rien. Il fait à peu près 12 ou 13 degrés dehors. On n'a pas froid. Quand il gèle là-bas, c'est un événement parce que qu'il tombe de la neige, c'est un événement parce que c'est très très rare.
Et si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez de ce temps libre? C'est, je ne sais pas, si vous pourriez, si vous mettez à votre disposition 2 heures de temps libre supplémentaire, qu'est-ce que vous feriez?
Je pense que j'étudierai peut-être, ou pas tous les jours, enfin je pense que j'étudierai, ou alors je me sens qu'on consacrera à une autre activité, mais enfin là vous me prenez au dépourvu parce que je me suis pas posé la question.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous avez une voiture?
Oui.
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 Et c'est une
Renault.
Une Renault.
Oui.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce modèle?
D'abord parce que Renault est une voiture quand même assez solide, disons, et une des moins chères sur le marché français. J'ai choisi celle-là parce que d'abord c'est une R8, elle est assez spacieuse et assez grande au point de vue intérieur, vous voyez, au point de vue volume intérieur. Évidemment, quand on part en vacances avec deux gosses, il y a toujours des valises, des paquets à mettre dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est une voiture qui est quand même assez robuste et qui ne fait pas partie de des grosses voitures. Et comme je fais pas mal de villes, bah, évidemment, c'est assez rentable.
Est-ce que vous en servez tous les jours?
Oui,
oui, tous les jours.
Pour aller travailler, pour aller conduire des gosses, pour aller chercher.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école? Il y a quelque chose enfin qu'il faut créer, qu'on devrait surtout leur apprendre.
Je crois qu'on devrait leur apprendre surtout la morale.
La morale?
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par la morale?
Eh bien, si vous aimez mieux, la différenciation entre ce qui est beau et ce qui est mauvais.
Oui.
Parce qu'en ce moment, il faut bien dire que avec tout le genre de beatnik et autres, disons, voyous, les enfants sont assez dépaysés et ils regardent de tous les côtés, ils ne savent pas très bien ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
J'en pense rien parce que j'ai jamais étudié le latin à l'école.
Et dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants se forment plus tard?
Ça tout dépend de la vocation qu'ils auront. J'aimerais bien qu'ils soient forts en langue, comme je l'étais, parce que c'est quand même appréciable. Mmh. Et de faire... Ça introduit, disons, dans certains pays, par exemple, si vous connaissez l'anglais, si vous connaissez l'allemand, si vous connaissez l'espagnol, ça vous introduit quand même dans beaucoup de pays aux alentours de la France.
Oui, d'accord. Oui, c'est pour aller voir. Et d'autres matières
J'entends langue français, évidemment, le français, qu'il soit fort en français, ça c'est un... Bon, c'est tout ce qui découle, la rédaction, l'orthographe, etc.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école? Est-ce qu'il y a...
Je pense qu'il y a deux facteurs. D'abord, il y a le facteur chance, disons. Le facteur chance, c'est-à-dire l'enfant est doué ou pas doué. Et puis, il y a aussi la manière dont les professeurs ou les maîtres présentent les différentes voies ou les différentes choses.
Oui, d'accord. Oui. La présentation ou la... sympathique qu'inspire.
Oui, c'est surtout ça.
Oui. Pour moi, c'est surtout ça.
Oui, je crois.
Parce que quand j'avais commencé à apprendre l'allemand, j'avais des profs que j'aimais bien. J'avais étudié bien, mais puis alors après, pendant 2 ans, j'ai eu des profs.
Mais
mais pas tellement. Et...
Ouais, puis alors vous êtes laissé aller, puis là, l'allemand est tombé à l'eau, disons.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Ça dépend des enfants. Moi, je ne pense pas qu'il soit valable de dire aux enfants, vous allez aller jusqu'à tel âge à l'école, par exemple, vous allez jusqu'à 16 ans, vous allez jusqu'à 14 ans, vous allez jusqu'à 18 ans. Tout dépend comment l'enfant est doué ou pas doué. Si l'enfant est pas doué, bon, on lui donne son certificat d'études et puis il va chercher une branche, soit commerce, soit voyez.
Mmh. Oui, d'accord.
Si l'enfant est doué, on peut le laisser continuer à l'école, faire ce qui lui plaît, après. Mmh. Mmh.
Et est-ce que vous trouvez que c'est la même chose pour les garçons et les filles, ou est-ce que vous faites une distinction entre eux?
Oh ben maintenant, vous savez, il n'y a pas de distinction à faire, je crois, parce que nous sommes pas en France, il y a l'égalité des sexes, et quel que soit un garçon ou une fille, les places sont pareilles, au point de vue place, au point de vue instruction, etc. Vous voyez, vous avez des ingénieurs qui sont femmes, vous avez des professeurs qui sont femmes, vous avez même des députés qui sont des femmes.
Oui. En France, est-ce que la femme, bien qu'elle fasse le même travail que l'homme, mettons, est-ce qu'elle est payée autant que l'homme, ou est-ce que l'homme a quand même un traitement, un salaire
C'est-à-dire que dans l'industrie privée, vous avez quand même des postes qui sont réservés exclusivement aux hommes et des postes qui sont quand même assez élevés, vous voyez. Sans ça, à travail égal, la femme est payée pareil. Elle est payée pareil.
Oui. Je crois en Angleterre que
C'est-à-dire que vous trouvez moins d'emplois, égaux entre hommes et femmes, vous voyez. Vous trouvez par exemple les conditionneuses dans les usines ou un truc, ou celles qui sont à la chaîne. Évidemment, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il sera payé exactement pareil.
Oui,
mais dans les cadres supérieurs, dans les usines, vous trouvez beaucoup moins de femmes.
Oui, d'accord.
Il y en a, mais enfin, ce n'est pas encore une généralité.
Oui, d'accord. Enfin, je crois qu'en Angleterre, quand même, il y avait justement quelque chose qui ne l'est pas, avant que je parte. C'était que, justement, les femmes, bien qu'elles fassent...
Le même travail était payé moins cher.
Elles étaient payées moins que les hommes, quoi. Enfin, je crois, et il y a un membre de parlement qui a obtenu certaines conditions, je ne sais pas trop quoi. Enfin, je crois que ça va changer, mais enfin, apparemment, c'était toujours l'homme qui était payé davantage,
les femmes,
un peu moins, quand même. Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans?
Oui, on a fait beaucoup. Surtout pour les commerçants, je vois les Floralies par exemple, ça apportait beaucoup d'étrangers à Ville-d'Orléans. Évidemment, les commerçants s'en sont sortis. Commerçants, je parle, disons, les hôtels, les restaurants. Pour nous, habitants Ville-d'Orléans, ça ne nous a rien apporté. Ça nous a apporté des impôts supplémentaires, c'est tout.
Oui, ça, je...
sans ça, évidemment, on a un magnifique parc qui maintenant est gardé quand même, pour lequel il faut payer pour entrer d'ailleurs. Je ne sais pas si en Angleterre les parcs sont payants. Enfin, là, il faut payer quand même 400 francs pour entrer.
C'était hein. Au parc...
Parc floral.
Parc floral à la source.
Oui, il faut payer 400 francs. Ben, quand vous y allez par exemple avec votre famille ou un truc comme ça, eh bien, ça fait quand même assez cher pour aller passer une après-midi.
Oui, c'est ça. C'est presque autant, enfin,
alors qu'à Paris, par exemple, vous avez des parcs qui sont exactement la même chose et pour lesquels on ne paye pas.
Ouais. Ça dépend, je crois, à Angleterre, ça dépend du... du parc.
Là, le parc est très beau, c'est un fait, mais enfin, ce n'est qu'un parc quand même.
Oui, d'accord. Oui.
Alors, payer 400 francs pour voir des roses, vous savez, toute une après-midi... sans compter que toutes les attractions qu'il y a dedans, que ce soit le petit train qui se promène à travers le parc, que ce soit les dégustations, tout ça c'est payant.
Oui,
en plus.
Oui. Donc, je crois que quand même chez nous, enfin, si par exemple je vois un château à Londres, enfin plutôt que Londres, quoi, vers l'ouest, je crois que là il faut payer pour entrer, mais. Quand même,
Là,
de parcs dans le centre, par
là,
exemple.
Là, vous rentrez dans le cadre des monuments historiques, par exemple. Alors là, en France aussi, vous avez tous les monuments historiques pour lesquels vous payez.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est...
Sans visiter l'intérieur, attention.
Oui,
hein.
Oui.
Parce que les parcs des châteaux pour pouvoir dire, vous pouvez visiter sans rien payer.
Mmh. Ben, je crois vraiment que ça dépend, parce qu'il y a des châteaux, enfin, qui... Les nobles laissent venir le public dans certains, par exemple, dans certains appartements du château. Ils pourront entrer au château, et puis alors que quelquefois, enfin, j'en connais un dans les Midlands, c'est Chatsworth. Alors là, je crois qu'on paye, je ne sais pas, 1 ou 2 francs pour garder sa voiture, et puis alors on peut aller se balader, pique-niquer quelque part. Enfin,
est-ce que nous, on ne peut pas pique-niquer dans les parcs des châteaux, vous voyez, c'est interdit, c'est strictement interdit.
Ouais.
Que vous preniez les châteaux de la Loire, d'ailleurs, ou d'autres châteaux, enfin,
ouais.
Je parle des châteaux de la Loire parce que ce sont les plus connus, mais on n'a pas le droit de pique-niquer dans les parcs, on a juste le droit de visiter, c'est tout.
Mm.
D'ailleurs, le français, il faut dire, est assez sale. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit, parce qu'il laissait des boîtes de conserve, il laissait des papiers gras, etc. Même qu'on les mette des poubelles, il ne les mettait pas. Mmh. Le français est assez indiscipliné, disons. Mmh.
Enfin. En fait, je vois dans les deux parcs à Londres quand même que, oui, et même à Paris, comme vous avez dit, on entre dans le parc, bon, on entre dans le parc, et puis après c'est tout, mais sans payer. Et quand je vous ai posé la dernière question, je vous ai dit « on ». Mais enfin, est-ce qu'on fait assez pour les habitants d'Orléans ? On, ça représente qui pour vous ? Qui est le « on » ?
Le « on », c'est la municipalité.
La municipalité, c'est le...
C'est le maire et les adjoints.
Oui, d'accord.
En réalité.
Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comptent à Orléans, à part les maires, les adjoints enfin, qui ont de l'influence ou qui peuvent dire bon...
Oui, vous avez le préfet. Le préfet au point de vue régional. Alors évidemment, il peut faire pour quelque chose pour chaque ville, séparément, vous voyez. En tant que subvention, par exemple, pour les travaux ou pour un truc comme ça.
Mmh. Oui, d'accord.
Enfin, il n'est pas tellement influent sur le plan local.
Sur le plan local,
c'est le maire et les adjoints qui sont... les différents adjoints qui sont...
Et enfin, comment ça se passe en France? Il y a les adjoints du maire sont... enfin, le maire, en Orléans, il est là depuis pas mal de temps, quand même. Oui, de mer de
Chine. Je ne me rappelle plus exactement la date exacte de sa libération. Je sais qu'il a, ça doit faire à peu près une dizaine d'années.
Enfin, est-ce qu'il y a des élections pour les maires tous les ans
ou... Non, pas tous les ans. Ça doit être tous les 4 ans, je crois.
Tous les 4 ans.
4 ans ou 5 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les élections du maire proprement dit, voyez-vous, et les élections des conseillers municipaux. Oui. Et les conseillers municipaux se réunissent, une fois qu'ils sont élus, vous voyez, se réunissent pour élire un des leurs maires. Et avec le maire, il y a des adjoints au maire, il y a 5 ou 6 adjoints, vous voyez, qui remplacent le maire quand le maire est empêché, qu'il est malade ou en déplacement ou en visite officielle.
Oui, d'accord.
Alors ces adjoints évidemment ont un travail bien précis. Vous avez par exemple l'adjoint au sport, l'adjoint aux travaux municipaux, l'adjoint aux finances. Et, ouais, une catégorie bien précise.
Oui, d'accord. Donc, enfin en Angleterre, je crois que enfin une fois que enfin on peut être maire plusieurs fois, je crois, mais on est maire pendant un an et après ça change. C'est quelqu'un d'autre qui prend. Je prends la place. Le maire est nommé par. Enfin, il y a les élections aussi des conseillers municipaux. Et puis, alors, le maire est nommé par, je crois, le conseil municipal.
Oui, c'est à peu près le même système.
Et on a beaucoup parlé, enfin, vous avez vous-même fait mention des événements de mai en 68. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça s'est passé? Enfin, je n'étais pas en France à l'époque. Pour vous, comment ça s'est passé
Orléans, vous voyez, Orléans, nous n'avons pas subi les contre-coups des événements de mai, nous avons suivi à la télévision, comme beaucoup de Français, mais Orléans est une ville universitaire, mais c'est une ville nouvelle, vous voyez, donc une ville relativement assez calme. Il y a bien quelques commandos, d'étudiants qui sont descendus sur Orléans, étant donné qu'ils n'ont pas trouvé d'eau à mettre à leur moulin, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé d'autres étudiants, c'est tombé, disons, dans le lac.
Ouais,
et alors, ils sont partis tels qu'ils étaient, mais ils ont semé un peu de désordre dans le campus universitaire d'Orléans, mais ils ont... c'est rien passé à Orléans.
Ouais, d'accord. Et enfin, il y avait des... je ne sais pas, des manques de... d'essence ou de sucre, de sel, d'aliments.
Oui, parce que enfin, vous n'avez pas eu des manques, il y a eu certaines restrictions, disons. On n'avait pas le droit d'acheter, par exemple, plus de 2 kilos de sucre ou 3 kilos de sucre. Il n'y a pas eu de manque, proprement dit.
Oui, d'accord. Parce que je crois quand même qu'à Paris, enfin, il n'y avait plus d'essence.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y avait des... la grève aussi, bien sûr, des boueux, il y avait des structures.
Ah oui, tandis que nous, non, il n'y a pas eu de... les services ont été...
ont fonctionné normalement.
Oui. Oui.
Et est-ce que... enfin, est-ce que vous croyez qu'on peut expliquer les événements je crois quelque chose est-ce que... comment est-ce qu'on peut les expliquer
C'est-à-dire qu'à la base, vous voyez, il y avait pas mal de mécontents, tant du point de vue ouvrier que du point de vue étudiant. Les étudiants, comme dans tout pays d'ailleurs, les étudiants sont toujours les premiers à se mettre le bazar dans le pays. Hein. Alors ce sont eux qui ont commencé à remuer un peu. Les centrales syndicales, après, au point de vue ouvrier, on les a suivis. Et ce qui a fait, c'est ce qui a fait une levée en masse, disons. C'était un... disons, au départ, c'était spontané, vous voyez. C'est un concours de circonstances qui a fait que les ouvriers et les étudiants se sont mêlés ensemble. On fait la grève ensemble.
Et vous croyez que, enfin... que des gens ont obtenu satisfaction après la grève ou... est-ce que vous croyez que...
J'ai pas tellement suivi. Si on vient d'écouter les étudiants ou un truc comme ça, ils ont pas dû avoir satisfaction parce qu'ils sont encore mécontents. La preuve, les derniers événements à Nanterre, etc.
Oui, oui.
Vous voyez, au point de vue, vous voyez,
certaines centrales syndicales ont obtenu satisfaction, d'autres estiment encore qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Alors, savoir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux là-dedans, vous voyez, ça va vraiment être plongé au cœur du problème pour le voir, pour le savoir.
Oui. Mais enfin, ce que j'ai vu... Non, ce que j'ai vu à la source, enfin, ça s'affiche dans les apparences, enfin, des étudiants du monde qui se réunissent, enfin, des étudiants et des ouvriers, etc., etc. Il y a toujours cette idée d'unité, enfin, comme au mois de mai, je me demandais si...
Oui, mais alors là, je crois que les étudiants ont fait une grosse erreur, et les ouvriers aussi, mais sans s'en rendre compte, et je ne pense pas qu'on pourra revoir les événements de mai 68 tels qu'on les a vus. Ils ne se reproduiront jamais. Parce que les ouvriers ont quand même compris que s'ils faisaient la grève avec les étudiants sont automatiquement des cadres supérieurs, vous voyez. Alors on ne peut pas mélanger les ouvriers avec les cadres supérieurs, c'est pas possible. Et je crois qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris un peu tard, mais ils l'ont compris. Et une grève telle qu'on l'a vue en 68, je ne pense pas que ça se refasse.
Ça
ne se refera pas.
Et est-ce qu'il y a est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une...
Orléans est très bourgeois, hein. Et évidemment, et les classes entre bourgeois et ouvriers, c'est assez marqué. Vous avez des quartiers qui sont ouvriers, des quartiers qui sont bourgeois.
Est-ce qu'on peut reconnaître, par exemple, un bourgeois ou un ouvrier, ou est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne vient de, je sais pas, tel quartier, s'il y a
Non, parce que si peut-être leur parler, disons, ou leur manière de se conduire dans la société, nos points de vue apparence, non. Ne serait-ce que pour les voitures, les bourgeois ont les mêmes voitures que les ouvriers, vous voyez.
Oui, d'accord.
Même des fois, les ouvriers ont les plus belles voitures que les bourgeois.
Oui.
Ce sont des choses qui arrivent.
Oui, certainement. Et maintenant, j'ai des questions d'un genre un peu différent. À l'étranger, veut venir en France pour apprendre le français, dans quelle région est-ce que vous voulez conseiller d'aller?
Ah, c'est assez difficile à dire, vous voyez, parce que chaque région a son... Pour trouver le vrai français tel qu'il existait, il n'existe pas en France, il n'existe qu'au Québec. Vous voyez. Le vrai français tel qu'on parlait, le vrai français, il n'existe qu'au Canada. Parce qu'en France, vous avez chaque contrée, chaque région qui a son dialecte propre. Vous voyez. Vous avez le breton qui a son dialecte, vous aviez le nord qui, avec les ch'timis, ont leur dialecte, vous avez l'alsacien qui est un dialecte allemand, vous avez le Berry, le Pays Basque, chaque région, vous voyez, a son dialecte. Peut-être dans le Val-de-Loire. Le Val-de-Loire, ce serait le coin où on parle le français le plus correct, disons.
Oui. Et il y a une ville dans le Val-de-Loire spéciale ou le Val-de-Loire
Le Val-de-Loire en général, vous savez, quand on parle du Val-de-Loire, on dit Tours, Angers, Orléans, vous voyez.
Oui, Tours, Angers, Orléans, c'est tout le long.
Tout le long de la Loire, oui, en fait. C'est...
Et est-ce qu'il y a des endroits qui devraient éviter en France quand tu viens en France, est-ce qu'il y a des endroits qui devraient...
Pour apprendre le français. Bon, par exemple la Bretagne intérieure, où il y a vraiment des dialectes... un dialecte, vous voyez. Moi, je sais que pour les premières fois que j'étais en Bretagne, quand j'ai entendu ma femme qui parlait avec des Bretons, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, Isa?
Et comme elle a vécu en Bretagne beaucoup, elle se rappelle encore du dialecte.
Oui,
ils ont vraiment un langage à eux, vous voyez.
Oui, d'accord.
Quand on va dans le Pays Basque, c'est pareil, vous avez un... C'est du français, disons, assez... français déformé. Chaque contrée, chaque région l'a interprété suivant sa façon, suivant son accent. Parce que vous avez des accents aussi encore en plus.
Oui, d'accord. Et pour bien apprendre le français, quel genre devrait-il fréquenter ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient fréquenter d'autres, qu'ils devraient éviter ?
Je crois que pour bien apprendre, il faudrait qu'ils fréquentent toutes les classes.
Toutes les classes.
Qu'il aille de, par exemple de la bonne à tout faire jusqu'au directeur des visites, vous voyez.
Oui.
Là, il pourrait apprendre tout ce qu'il voudrait, quoi.
Mm-hmm. Et
à lui, tu vois, évidemment, de faire la distinction entre le langage populaire, disons, et le langage de directeur, qui n'est pas évidemment la même chose, mais enfin,
oui.
Je pense que pour pouvoir se débrouiller en France, il faudrait qu'il fasse ça.
Mm-hmm.
Parce que vivre dans une vivre au père, par exemple, dans une famille ou un truc comme ça, eh bien, il apprend que le langage de la famille, ce qui n'est pas le reflet du français ou de la France.
Oui, c'est ça. Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger ?
Oh, il y en a beaucoup. Il y en a d'abord les verbes.
Les verbes ?
Les verbes, quoique les verbes irréguliers en anglais, c'est bien difficile aussi. J'en ai une souvenance, en fait. Mais enfin, quand même, les verbes, vous en anglais, vous n'avez pas ce futur, c'est imparfait, c'est plus que parfait, les subjonctifs, etc. Et je crois que... et puis différents groupes de verbes, je crois que c'est ça le plus dur. Après, je mettrai les synonymes.
Les synonymes.
Synonyme et homonyme. Alors là, c'est pour un étranger, je crois que c'est un casse-tête chinois.
Et est-ce qu'on parle bien en Orient ? Est-ce que tout le monde parle bien ?
Oui.
Oui,
je crois.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien en Orient ?
Oui, vous avez des gens, évidemment, vous avez des étrangers, alors évidemment, ils parlent moins bien le français.
Oui, à part les étrangers.
Non, vous n'avez pas le, disons, le parler comme vous avez à Paris, par exemple, les poulbeaux, ce sont les vrais parisiens, vous voyez, qui ont un accent et qui déforment un petit peu les mots. À Orléans, vous n'avez pas ça.
D'accord. C'est les poules beaux.
Les poules beaux, oui.
Ça s'écrit comme poule et beau ou...
Non, poule beau en un seul mot. P-O-U-L-B-O-T-S.
B-O-T-S. Ouais, d'accord. J'ai déjà entendu le mot pargo.
Oui, le poule beau, c'est le le parisien qui est né à Paris, vous voyez. Et puis que vraiment, en principe, ça se trouve dans le milieu ouvrier, vous voyez.
D'accord. Et est-ce qu'à votre avis, le français est une langue difficile ?
Ça serait plutôt à vous de me répondre là-dessus. Le français, oui, pour un étranger, c'est une langue difficile, je crois.
Et pour les Français, est-ce que les Français ont des difficultés avec leur langue ou...
Oui, on y est habitué, tout le monde se comprend, vous savez.
Oui.
Même si on parle pas tellement français, tout le monde se comprend.
Oui.
Mais pour un étranger, c'est très difficile, le français.
Et est-ce que, enfin, par exemple, est-ce que les Français ont des difficultés avec leur langue ? Enfin, en quoi est-ce que c'est difficile ? Enfin, je vous ai déjà posé la question.
Oui.
Difficulté pour les étrangers, mais est-ce que vous voyez...
Non, entre français, je vois pas de difficulté. Enfin, je l'imagine pas.
Et Et quelqu'un est de passage à Orléans. Enfin, il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant ce séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
À Orléans même?
Oui, oui.
Orléans même n'est pas un centre tellement d'attractions, vous voyez. À part la cathédrale à visiter qui est très belle, certains musées, disons, c'est tout. Après, il faut qu'il aille dans le Val-de-Loire ou qu'il aille à ce moment-là visiter le château de la Loire.
Oui.
Tout dépend du temps dont il dispose.
Et quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Enfin, je veux que vous imaginiez dans la situation où vous êtes là, si quelqu'un frappe à cette porte, qu'est-ce que vous lui dites?
Vous voyez, les Orléanais sont, disons, assez renfermés sur eux-mêmes. Quand c'est un visage inconnu, l'accueil risque plutôt d'être froid. On demande d'abord aux gens qui y sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire, etc.
Oui, bien sûr. Enfin, oui, c'est... Enfin, mettons que... Je sais pas, c'est... Ou même que vous entendez un coup à cette porte-là. À cette autre porte, c'est pas quelqu'un qui frappe à la porte. Pas à la porte du dort, mais enfin à la porte dans la maison, quelqu'un frappe, qu'est-ce que vous dites?
En général, le plus simple, on dit oui, on dit entrer.
Oui, entrer, oui.
Entrer ou oui, ça dépend.
Entrer ou oui.
Oui.
Et mettons maintenant que vous êtes dans la rue, enfin vous avez rencontré quelqu'un et vous lui invitez à prendre quelque chose à la maison, qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Tout dépend de la condition, si c'est un copain, on lui dit t'es venu à prendre un pot.
Oui, d'accord. Et si c'est pas un copain?
Mon copain, on dit vous prendrez quelque chose. Vous prendrez quelque chose, bien, vous prendrez bien quelque chose. À la maison.
Et comment est-ce qu'on fait une omelette? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait une omelette?
Alors là, c'est. Prenez des œufs, vous les cassez, vous les mettez dans une assiette, vous battez vos œufs,
oui.
Vous prenez une poêle, vous mettez du beurre dedans, et puis après vous mettez vos œufs dans votre poêle, enfin vos œufs battus dans votre poêle. Mm-hmm. Alors il y a différentes sortes suivant les régions, vous avez l'omelette baveuse ou l'omelette, la véritable omelette. L'omelette baveuse, c'est l'omelette qui n'est pas tout à fait cuite, vous voyez.
Oui, oui.
Ou alors l'omelette qui est très cuite, alors ça dépend des régions.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on fait un nœud? Un nœud de soulier, par exemple.
Alors là, c'est une chose qui m'est difficile parce que je n'ai jamais mes souliers. Hein. J'ai une corde à chaussures et je les passe comme ça, ça me donne ça. Hein. Merci. Alors, comment faire un nœud? J'espère que je le refasse devant vous parce que j'avoue que. Prenons l'exemple d'une chaussure. Hein. Vous avez les deux morceaux de l'acier, disons. Vous en prenez un dans la main droite, un dans la main gauche. Vous croisez vos deux morceaux de l'acier. Celui qui est maintenant à droite, vous le passez sous celui qui est à gauche, de manière à ce que ça fasse comme une boucle, si vous aimez mieux. Vous serrez ensuite votre nœud de votre boucle, et après vous faites comme deux oreilles de lapin, si on peut dire. Et vous, plutôt une oreille de lapin, et vous tournez celui qui est à gauche sur celui qui est à droite pour faire une boucle. Je ne sais pas si vos anglais vont comprendre quelque chose.
Très bon.
une chose qui est tellement simple qu'on arrive mal à l'expliquer.
Mais, oui, c'est, une fois j'ai essayé de le... j'ai essayé d'expliquer ça en anglais pour moi, pour voir. Et...
C'est assez compliqué, c'est, mais c'est une chose qui, tellement, une qui se fait tellement facilement, tellement...
Oui, tellement en vitesse,
tellement une habitude.
Et surtout, enfin, on remarque que dans les... C'est pas sur un dictionnaire ou si on regarde nœud, par exemple, ou...
On ne dit pas la méthode comment faire.
Oui, enfin, il y a des. Enfin, dans le dictionnaire, on ne vous explique pas.
Non,
ou si on explique des différentes sortes, il y a toujours des noms de différentes sortes de nœuds, et puis alors un petit dessin qui explique.
Oui, oui, d'accord. On ne voit pas comment on arrive à le fabriquer.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites des mots croisés?
Non.
Je n'en fais pas. Est-ce qu'il y a une raison spéciale ou...
Non, parce que j'ai pas le temps, surtout.
Et pensez-vous qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Oui, en ce sens, c'est que ça les aidera au point de vue français. Ça leur évitera de faire des fautes d'orthographe. Mm-hmm.
Et que pensez-vous du franglais? Des mots comme
ce sont des mots qui sont passés tellement maintenant dans le langage courant qu'on n'y fait même pas attention.
Et vous êtes pour, pour ces mots ou contre ces mots Est-ce que ça vous est indifférent s'ils passent ou non?
Ça m'est indifférent parce que j'étais habitué comme ça à l'entendre, vous voyez.
Oui, d'accord.
Et certains que pour mes parents, par exemple, ce serait... le cas se pose pas. Ils parlent beaucoup le franglais. Un snack bar, ils disent un bistrot ou ou un bar. Mais pas... Oui. Donc nous, notre génération est tellement habituée à entendre parler ces mots usuels, disons, comme un bistec, comme vous voyez.
Oui, bien sûr. Et y a-t-il des différences selon vous dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents? Est-ce que des différences existent sur ce plan-là?
Alors là, je vois pas.
Vous n'en voyez pas?
Non.
Et selon vous, est-ce que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
Sans changement, je crois.
Sans changement,
oui. Je crois sans changement. Oui.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français, qui parle le meilleur français?
Voilà, je n'ai jamais posé la question.
Est-ce que vous voyez quelqu'un qui, je sais pas, qui pour vous parle un très bon français, quelqu'un que vous connaissez?
Non, je vois pas. Pas le français courant, mais on parle pour le français déjà en spécial. Non, je vois pas.
Et y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot, une expression fait partie ou non du bon français?
Non. Vous avez des académiciens qui révisent le dictionnaire et qui discutent par exemple d'un fait et qui vous disent si un mot est français ou pas. Ils décident de ça, mais sans ça, de savoir si c'est du bon français ou du mauvais français, ils ne discutent pas, vous voyez.
Oui, d'accord.
On accepte le mot dans le dictionnaire, vous voyez. S'il est accepté, c'est que c'est du bon français.
Et vous trouvez que les académiciens servent à quelque chose? Vous trouvez que c'est utile? Très utile, sans utilité?
Personnellement, sans utilité.
Et pourquoi ça? Est-ce que...
Vous savez, on parle le français... les académiciens, je crois qu'ils font à peu près, disons, un mot par mois, alors vous savez, à ce régime-là, je pense que ça se porte de commentaire.
Oui, d'accord. Est-ce qu'il faudrait obliger ou conseiller, ou même obliger les journalistes et les speakers de la télévision et de la radio à parler un bon français, à employer un bon français?
En général, les speakers de la télévision sont obligés de parler un bon français parce qu'en général, ils sont obligés d'être licenciés au moins en français. Hein. Mm-hmm. Au moins des licences. Quant aux journalistes, eh bien, ils ont un parler assez spécial. Et ça, je crois qu'on ne pourra pas en empêcher. Ils ont un parler journalistique qui est, disons, assez concret et on ne peut pas les refaire.
Mm-hmm. Mais vous trouvez que c'est... Vous trouvez que ce serait bien que, enfin, qu'on leur dise, il faut employer un bon français quand vous êtes à la télévision, ou est-ce que vous trouvez que c'est...
Oui, évidemment, ce serait bien. Mais je vous dis, de par leur métier, ils sont obligés d'avoir des termes assez concrets et... Ils sont tenus par le temps, vous voyez, ils ne peuvent pas faire des phrases comme ils le veulent.
Oui, d'accord. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est enseignée aussi bien, mieux ou moins bien que du temps que vous étiez à l'école même?
Je crois qu'elle est pareille.
Pareil. Mmh.
Les méthodes d'enseignement n'ont pas changé, mais pareil.
Oui. Et dans quelle matière étiez-vous là? Allez.
C'est reparti.
Et... Pardon, vous aviez une heure de... première communion.
Oui. En général, on offre la montre à la fille, le stylo au gars.
Et quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois? Enfin, n'importe quoi, que ce soit un mot sur un bout de papier.
Hier soir, un chèque, quand j'étais faire mes commissions.
Et vous avez besoin d'écrire pour votre travail?
Oui.
Et pour quel genre de choses en général?
C'est tout, parce qu'au point de vue de lettres à mes amis, c'est ma femme qui fait ça.
Pardon ?
C'est tout, au point de vue travail, c'est tout, parce qu'au point de vue lettres pour les amis, pour la correspondance, par exemple les vœux de nouvel an, c'est toujours ma femme qui fait ça.
Ouais. Enfin, pour quel genre de choses sur votre travail ? Enfin, c'est...
Ah, pour régler les factures, pour les inscrire sur les facturiers, vous voyez, etc. Sur les répertoires.
Et est-il important selon vous d'avoir une belle écriture?
Oui. On dit que l'écriture est la science des ânes, mais il est important d'avoir une belle écriture. Moi j'ai une écriture affreuse. Il n'y a que vous qui arrive à me relire. Enfin.
Enfin, vous trouvez ça très important?
Très important.
Très important.
Oui.
Et. Pourquoi très important?
Parce que d'après l'écriture de quelqu'un, on arrive à voir si c'est quelqu'un d'intéressant ou pas.
Vous?
L'écriture reflète un peu le caractère de la personne, vous voyez.
Mmh.
Il paraît que d'après l'écriture, on peut voir si quelqu'un, par exemple, est intelligent ou s'il ne l'est pas.
Oui, enfin,
Il est un fait qu'une belle écriture... jouer à l'école, par exemple, ben, comme j'écrivais comme un correction, ça indisposait des professeurs. Il n'arrivait même plus à... Il ne lisait pas la fin du devoir. Ouais. Alors qu'un gars qui avait une belle écriture, même s'il avait écrit des imbécilités, ben, on lisait son devoir jusqu'à la fin.
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Moi, c'est un problème qui s'est posé pour moi autrefois à l'école. Personne n'a... Enfin, j'avais toujours des ennuis avec mon écriture, personne n'arrivait à lire.
Ouais.
Et j'avais, on me disait, mais vous savez, les examens, il faut quand même, si le prof n'arrive pas à lire votre écriture,
C'est-à-dire que dans les petites classes, j'écrivais bien, et puis après, vous savez, quand on monte en troisième, en seconde, etc., on prend des notes et on arrive à se déformer l'écriture complètement.
Oui,
et à prendre des cours, on arrive à complètement, à prendre presque en sténo.
Et est-il important d'avoir de l'orthographe?
Ah oui.
Oui. Oui. Très important, important, peu important.
Très important.
Très important aussi. Et pourquoi avoir de l'orthographe? C'est très important.
Parce que d'abord, ça permet aux gens de vous juger.
Mm-hmm. Oui.
Quelqu'un qui n'a pas d'orthographe, on a un jugement beaucoup moins bon que quelqu'un qui a de l'orthographe. Même si quelqu'un qui n'a pas d'orthographe a de très bonnes idées, on sera enclin plutôt à prendre les idées de l'autre, par exemple, parce qu'il écrit bien, qu'il parle bien, qu'il cause bien.
Oui, d'accord. Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe pour rendre ça plus politique ou...
Disons qu'il y a certains mots qui sont peu usités qu'on pourrait retirer du vocabulaire courant.
Oui.
Enfin, pas du vocabulaire courant, mais du vocabulaire, disons. Oui.
Enfin, c'est pas pour... mettons, même le mot orthographe, bon, ça s'écrit O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-E. Enfin, pour l'écrire, par exemple, O-R-T-O-G-R-A-F. Ou R A F E.
Orthographe simplifiée, disons.
Oui.
Non, je vois pas, parce que on a toujours été habitué à écrire orthographe O R T H O G R A P H E. Nos enfants font comme nous, puis c'est tout.
Oui, d'accord. Vous seriez défavorable alors à une réforme? Favorable? Très défavorable.
Je serais défavorable. Oui.
Défavorable.
Défavorable.
Et vous avez dit que c'est votre femme qui écrit habituellement aux amis communs.
Oui, oui, c'est exact. Oui.
Et à votre famille, à vous, c'est...
Ma famille, à moi, ben, mon père habite au-dessus, alors j'ai pas de...
Ah oui.
Il n'y a pas de courrier très réduit.
Ah bon. Et enfin,
tout ce qui concerne la correspondance, en général, c'est ma femme qui
l'a fait. C'est votre femme. Et à la famille de votre femme, c'est...
Oui, c'est ma femme. Oui. Aussi. Oui.
Et pourquoi ça? Est-ce qu'il y a des... Attends.
Je n'aime pas écrire. Je n'aime pas écrire, alors. Et ma femme adore écrire, alors ça change tout. Ça simplifie toutes les choses.
Et qui est-ce qui remplit les papiers administratifs, les feuilles d'impôt, de sécurité sociale, maladie?
Ma femme, ça.
C'est votre femme. Et d'autres papiers qui arrivent?
Ça dépend, j'en remplis aussi.
Ça dépend.
Oui. Ouais, moitié-moitié, disons.
Oui, moitié-moitié, ouais, d'accord. Et pourquoi les feuilles d'impôt? Enfin, c'est quand même pas...
Ouais, quand il s'agit de calcul, je les calcule, mais quand il s'agit de vraiment de copie ou un truc comme ça, je laisse ça à ma femme parce que ça me casse les pieds.
Et qui de vous ou de votre femme possède la meilleure orthographe?
Je crois que c'est moi.
C'est vous. Et la plus belle écriture?
Oh bah c'est étonné, à peu près là.
Parle dans le meilleur français.
Pas vous.
Pareil. Et écrit dans le meilleur français?
Moi, ça se voit aussi, je sais pas.
C'est pareil.
Oui, ça se voit.
Et combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois pour votre travail?
Pour mon travail, moi j'écris pas de lettres.
Vous n'écrivez pas de lettres?
Non, non, j'ai pas de lettres pour mon travail. Il y a une secrétaire qui est spéciale pour ça.
Oui. Et hors travail?
Hors travail, je vous dis, c'est ma femme qui les fait, alors. Disons une douzaine, quoi, 10 à 12 lettres par mois.
10
quoi.
À 12 lettres par mois.
On écrit surtout à la famille.
Et est-ce que vous conservez les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Jusqu'à temps que je n'ai pas répondu, oui, par exemple.
Mais
une fois que j'ai répondu, non, que j'aurai répondu, non, je les brûle.
Oui. Alors vous ne les gardez jamais?
Oh non. Non,
jamais.
Non.
Et quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Oh non, jamais. Non.
Et faites-vous attention aux fautes d'orthographe?
J'évite d'en faire.
Et est-ce que vous vous relisez?
Ah oui, toujours. Oui,
toujours.
Toujours.
Et avec quoi écrivez-vous? Stylo plume.
Stylo plume, oui. Stylo plume.
Et quel papier, quel type de papier utilisez-vous? À carreaux, ligne blanc ou blanc ligne derrière?
Ça dépend si une gomme sous la main.
Dépend...
J'ai pas de préférence.
Non,
pas de préférence.
Et quand vous devez écrire au professeur à l'école de votre enfant, de vos enfants, est-ce que vous faites la même chose? Pas de brouillon?
Oh non, je fais comme ça directement, je fais pas de brouillon.
Et orthographe
Ah oui, j'essaye quand même un peu plus. Là, je me relis deux fois, disons.
D'accord. Et vous écrivez avec un stylo à plume?
Stylo à plume,
oui. Et papier, est-ce que vous choisissez
pas
un papier?
Plus, non.
Non. Ça. Et pour une lettre officielle?
Ah, pour une lettre officielle, en général, c'est du... je fais un brouillon.
Un brouillon?
Oui. Je fais un brouillon, j'écris sur du papier blanc.
Sur les papiers blancs, avec des lignes derrière?
Non, pas du blanc
en l'air, comme ça. Et stylo à plume?
Oui, stylo à plume, toujours.
Et y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme? C'est une question un peu bizarre.
Ou quand elle parle en patois, ça m'agace.
Ah,
bon,
d'accord.
Parce que je comprends pas grand-chose.
Et y a-t-il des choses qui agacent votre femme dans la façon dont vous parlez?
Oui, quand je parle argot, alors ça lui plaît pas.
Quand vous parlez argot?
Oui.
Ça vous arrive souvent?
Ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive, disons. J'évite devant les enfants. Ils ont beau avoir 3 ans et demi, ça oui. Retient tout. Oui. En général, ce qu'il faut pour tenir.
Moi, j'ai une amie française que j'ai rencontrée il y a 2 ans, à Douai. Et alors, elle a raconté une histoire qu'elle avait une amie dont le mari disait tout le temps sa lettre.
Oui, oui.
Et alors... Un jour, les enfants entendaient ça.
Ah oui,
et un jour, elle est partie avec son fils et sa petite gamine. Et Alors, ils ont rencontré dans la rue une dame. Bonjour madame. Le petit garçon dit bonjour madame. Et madame dit à sa gamine, dit bonjour à la dame. Alors la petite fille, elle dit maître. Et enfin, madame, l'autre dame enfin, qu'ils avaient rencontré n'avait pas compris. Et madame, l'autre dame. Ouais. Mon mari, vraiment, il est exagère pour que ma fille dise ça.
Ouais.
Et alors le petit garçon se retourne et dit, c'est merde qu'elle veut dire. Ah, vous voyez
ouais,
que...
Oui. Oh oui, ça ramasse tout. Hein, et je crois qu'ils ont un sixième sens, disons, de savoir ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, on n'en tient pas, mais ce qu'il faut pas dire, ça vous le savez. Hein. On met délicatement dans sa poche et puis on le ressort au bon moment.
J'ai aussi un copain allemand qui s'amuse, enfin, sa sœur a deux garçons, deux fils. Alors, mon copain il s'amuse à dire tous les mots impossibles. Il apprend à son neveu ce qu'il y a tous ces mots-là.
Alors, ce sont pas des choses à faire.
Et sa sœur dit bon, enfin, quand vous aurez deux enfants, quand tu auras deux enfants, tu verras. Moi, je
sais
ce que je vais faire, parce qu'il sort des trucs vraiment partout. Enfin, ça amuse. Pas, bien sûr, enfin, pas tellement ça. Et est-ce qu'il vous arrive que votre femme reprenne? Est-ce qu'il arrive que votre femme vous reprenne?
Non.
Non,
parce que quand je parle argot, on est que deux, alors elle ne me reprend pas.
Et est-ce que vous reprenez votre femme?
Non.
Et y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler aux enfants?
Non.
Est-ce qu'il vous arrive de les reprendre?
Tiens que pour l'instant c'est encore petit, vous voyez. Alors, oui, je les reprends quand vraiment c'est trop gros, mais oui, ça m'arrive d'y reprendre, oui.
Oui. Et qu'est-ce qui les reprend le plus souvent? C'est...
Oh, c'est ma femme.
C'est votre femme.
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème.
Et enfin, pour quel genre de choses en général?
En général, c'est pour... Elle reprend surtout pour la désobéissance.
Obéissance, oui, d'accord.
Obéissance, désobéissance.
Et y a-t-il des mots... Enfin, elles sont encore petites, mais enfin, est-ce qu'il y a des mots que vous la interdirez de prononcer plus tard?
Je crois que les parents vont pas interdire, parce que de toute façon, si on leur interdit, ils l'apprendront bien à l'école par les petites copines.
Et ça, quelquefois, ça... Enfin, dès qu'on interdit quelque chose...
Automatiquement, il n'y a pas de problème, on s'empresse de le retenir.
Oui. Et, enfin, si elle prononce enfin, des gros mots, par exemple, est-ce que vous la punirez? Est-ce que vous les punirez plus tard ou...
Oui, tout certainement, oui.
Mais
oui. Enfin, je les punirai peut-être pas, je leur dirais que c'est mal, qu'il ne faut pas le dire, enfin, faut éviter de le dire.
Et est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Oui.
Oui. Qui est-ce qui vous reprenait le plus souvent? Votre père ou votre mère?
C'était souvent avec ma mère, ça devait être ma mère.
Et pour quel genre de choses surtout?
Oh, je crois qu'il y avait le langage et puis l'obéissance, comme tous les enfants.
Lui prenait-il des sanctions quelquefois?
Oh oui, j'avais des fois une claque ou un truc comme ça, mais c'était à peu près tout, et pas plus loin.
Et est-ce que vous avez un dictionnaire?
Oui.
Et c'est quel dictionnaire?
Un Larousse, un de volume. C'est un Larousse, un de volume. Il est là-haut d'ailleurs.
C'est dans
le... Là-haut. Il est là-haut.
Là-haut.
La bibliothèque, là.
Et depuis quand est-ce que vous l'avez?
Je devais avoir 11-12 ans quand je me suis acheté avec mes différentes pièces que j'ai eues. Enfin, j'avais économisé ça, puis je me suis payé le dictionnaire.
Ah, oui, d'accord. Et vous l'avez acheté à un magasin?
Dans un magasin, oui. Chez un libraire. Chez un libraire.
Chez un libraire,
oui.
Ça fait 10 ans que vous avez dit?
Non, j'avais 12 ans, alors ça fait 16 ans.
Et est-ce que vous avez une encyclopédie?
Non.
Et qui est-ce qui se sert du dictionnaire, justement?
Pour l'instant, on s'en sert pas.
Quelquefois, il vous arrive de vous en servir.
Ça, vous pouvez mettre ma femme, nous deux, parce que quand on cherche un mot en général, c'est qu'on sait ni l'un ni l'autre.
Et combien de fois, mettons, est-ce que vous en servez par mois?
Ah ouais, je peux pas vous dire. Là, j'ai aucune idée.
Grosso modo,
je m'en sers pas tellement souvent. Hein.
Non.
Je m'en sers pas tellement souvent.
Et est-ce que vous vous souvenez quand vous avez regardé pour la dernière fois?
Ça doit faire un sacré bout de temps. Hein. Non, je ne me rappelle pas.
Et est-ce que vous possédez un livre sur un guide de savoir-vivre ou un livre sur l'art d'écrire?
Non, non.
Vous trouvez que c'est utile que de tels bouquins existent ou...
Oui, oui, pour certaines gens, pas pour nous. Certaines gens qui ont l'habitude de recevoir des trucs comme ça, oui, d'accord, mais pour nous qui recevons que la famille ou un truc comme ça, guide de savoir-vivre, je me demande ce que j'en ferais.